I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonsoir les amis, nous sommes dans un Capture Mag bonus. Ouais, c'est ça, c'est la fête, c'est les bonus. Je suis entouré de Rafik et de Stéphane. Et ce soir, j'avais envie de vous parler d'un petit truc un petit peu particulier.
En fait, t'avais envie de cracher ton venin, dis-le.
Mais tu voulais faire un coming out. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Vous allez voir, c'est...
Tu avais besoin de salir une émission qui jusque-là n'a été qu'amour, voilà, et promotion bonheur. Du cinéma.
C'est ça. Non, pas tout à fait. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez me dire si ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Eh mais t'as mis un remix là.
Remix The Public Enemy. Don't believe the hype, comme diraient les anglo-saxons. Et pourquoi je dis ça les amis? C'est parce que je suis très malade. Je suis malade. Je suis allé voir le docteur Villeneuve la semaine dernière. Et je crois que j'ai chopé une akinosie. Vous savez ce que c'est qu'une akinosie?
Explique-nous.
Vous vous souvenez dans Les Loups la cuisse quand Louis de Funès est victime d'aguesie?
Oui.
Et ben là c'est pareil, c'est la kinosie de A privatif et de kinosie du grec kinopanorama qui veut dire cinéma. Et je crois que j'ai perdu totalement le sens du cinéma. Et tous les films récents me paraissent gris, moroses et leurs ressorts scénaristiques sont toujours un peu les mêmes et des acteurs interchangeables. Bref, je suis soit victime d'akinosie, soit victime de vieilles conneries. Et surtout, je ne comprends pas ce que les gens... C'est pour ça que je passais Don't Believe the Hype. Je ne comprends pas ce que les gens trouvent à ce film de Denis Villeneuve. Premier Contact, The Arrival en anglais. Et tout le monde trouve ça super bien. Et moi, j'ai du mal à m'y intéresser, voire à me passionner pour ça.
Docteur, eh bien, tu as frappé,
Docteur Mazakis, pouvez-vous
bonsoir,
m'aider?
Bonsoir David, tu as frappé à la bonne porte.
Non, je dois avouer que lorsqu'on m'a dit que David avait l'intention de parler en mal d'un film au début, j'étais assez froid quand même, j'ai pris mes grands airs.
Qu'est-ce qu'il a à dire sur Roland Emmerich?
Une fois que j'ai entendu le titre en question, je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, vas-y, donne-toi mon enfant. Je pense que c'est naturel de pas tomber dans la hype, parce que toi et moi, nous sommes de vieux garçons qui avons quand même vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pas forcément en faisant un grand effort, mais simplement par habitude de cinéphile.
Parce que vous êtes vieux, quoi.
Et qu'on a vu aussi, on a vu régulièrement passer de la hype. C'est-à-dire qu'on a vu de ces films qui, l'espace de quelques mois, sont les plus grands chefs-d'œuvre que l'histoire de l'humanité ait jamais produit et dont on se doute parfaitement qu'ils vont disparaître dans les limbes. Moi, j'ai été voir Premier Contact en projection de presse.
J'ai vu au cinéma la semaine dernière. Alors là où je suis quand même surpris, parce que nous sommes en janvier et c'est la cinquième semaine de projection. Enfin, moi je l'ai vu donc dans sa cinquième semaine de projection, dans un jeudi soir, donc pas un soir forcément extrêmement fréquenté par les spectateurs. La salle était comble, une salle assez grande qui devait bien faire entre 400 et 500 places, dans un UGC de la périphérie de banlieue. Et les gens semblaient extrêmement contents et heureux de leur projection. Ils ont applaudi à la fin du film. Donc voilà, enfin, je me suis pas senti rejeté, mais enfin, je suis pas senti dans le mood, et surtout, bah, le film fonctionne, enfin, a l'air de marcher auprès du public.
Mais qu'est-ce qui marche pas chez toi?
Eh ben, je crois que déjà, j'ai trouvé que le film était extrêmement déprimant, voire dépressif, et que l'approche de Villeneuve qui qui cherche à traiter son sujet de la rencontre extraterrestre de manière assez sérieuse, ce qui est louable, hein, on peut pas a un côté extrêmement angoissant, oppressant, stressant de traiter son sujet, ce qui par exemple, si je peux me permettre un petit parallèle, dans un film comme Le Fils de l'Homme de Cuaron 10 ans auparavant, me paraît totalement légitime et extrêmement bien maîtrisé, et m'a laissé un souvenir impérissable, ce qui n'est pas le cas de ce film-là. Donc,
c'est d'autant plus étonnant que c'est censé être un film entre guillemets positif, c'est-à-dire que c'est un film qui présente la rencontre avec les extraterrestres pas comme dans un Roland Emmerich, justement, pas comme dans la série télévée par exemple, pas comme des personnages agressifs qui viennent voilà.
Donc
c'est étonnant d'avoir ce sentiment là sur ce sujet là quoi.
Non, c'est pas étonnant, c'est un film qui est comment dire, moi c'est, je l'avoue, c'était mon premier Denis Villeneuve.
Alors si je mets la musique du film, elle est pas non plus très gaie. Hein.
Je m'étais pas précipité sur les précédents films simplement parce que mes collègues, Stéphane ici présent, mais aussi Arnaud et Julien, les voyaient à ma place et je les voyais sortir vraiment là, en faisant une certaine moue qui m'a jamais encouragé à me précipiter sur son cinéma. Donc ça a été ma première rencontre avec Denis Villeneuve et je pense que ça va être la dernière. Parce que ça m'arrive rarement de comment dire, lorsque je vois un film qui me déplaît, ça m'arrive vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour le faire savoir, voilà. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, à la sortie de Projo, de balancer une saloperie qui était la différence entre voir Premier Contact et sucer un glaçon. L'un des deux actes me procure des sensations. Je n'ai ressenti que dalle. Enfin, si, j'ai ressenti une espèce de vide intérieur. C'est-à-dire que c'est peut-être une maladie personnelle que j'ai, mais j'ai toujours eu un énorme problème, personnellement, avec les pubs pour yaourt, et notamment tous les trucs de type Taïfine, etc. Tout ce qui vise, en fait, à donner aux femmes la sensation que c'est un produit bon pour la santé. C'est souvent dans des tons blancs, lumineux, etc. Et moi, ça m'angoisse, ces pubs-là. Et ce film, il est angoissant et vide.
Ah oui, ça je suis. Enfin,
comme,
vide,
comme ces pubs, c'est-à-dire que.
Je suis peut-être pas complètement d'accord avec
ça. On a l'impression d'évoluer dans un compte Instagram d'une américaine dont l'appartement est suréclairé, tu vois, avec cette vue sur le lac bien immobile, ses meubles bien rangés. Enfin, il y a une espèce de dikéisation comme ça de l'environnement qui est terrifiante. Je trouve que la production design, y compris du vaisseau spatial, etc., est absolument dégueulasse. Et en termes de rendu émotionnel, c'est vraiment cataclysmique. Le film démarre sur probablement la chose la plus traumatique qu'un film puisse mettre en scène, qui est la perte d'un enfant par ses parents. Et là,
on spoilie rien. C'est vraiment
les premières secondes du film. Et on sent pas les ragnières. Enfin, je me dis, c'est quand même incroyable. Je pense pas que ce soit une volonté du réalisateur de dire je vais faire la scène de perte d'enfant la plus dépassionné de l'histoire du cinéma.
Ouais, je pense qu'il cherchait à faire le contraire. Voilà. Mais quand on voit, par exemple, là-haut de Pixar,
par exemple,
voilà, l'ouverture qui raconte la vie des deux, du héros et de son épouse,
sachant que c'est plus difficile de faire pleurer sur des vieux que de faire pleurer sur la perte d'un gosse.
C'est incroyable.
Et le film est à cette image. Moi, j'ai vraiment traversé l'enfer. Hein. Ça m'arrive. Enfin, j'ai une colère même à l'encontre de ce truc. D'une part parce que donc il m'a emmené dans cette espèce de vortex publicitaire que je déteste cordialement, mais aussi parce que d'une certaine façon il gâche un genre qui est rare et que j'adore, qui est précisément celui du contact. Je suis
on est des enfants de Rencontre du Troisième Type.
Mon cinéaste préféré c'est Steven Spielberg, et parmi mes Spielberg préférés, si ce n'est le préféré, la Rencontre du Troisième Type. Et pendant des années j'ai attendu comme un malade le projet de David Fincher, Rendez-vous avec Rama, qui est exactement ce principe là d'une l'humanité essayant de se mettre à niveau d'une intelligence supérieure extraterrestre. Et au lieu
dans 2001, au lieu aussi dans ce
et au lieu de m'offrir film. J'attendais un film de David Fincher et on m'offre un film de Richard Balducci. Donc je suis en colère parce que je sais que ce truc là d'une certaine façon va faire école. Maintenant, si quelqu'un veut faire un film dans cet esprit là il sera bloqué par l'existence de ce The Arrival. C'est une catastrophe.
Stéphane, ton sentiment sur ce film?
Moi, mon sentiment, c'est plus un problématique de SF. Il y a, je pense, cœur du film. Et là, pour le coup, je vais spoiler, donc j'engage les auditeurs qui veulent voir le film et qui veulent rester vierges, comment dire, de tous les twists. Enfin, les twists, il y en a qu'un du film, en fait.
Arrêtez ce podcast tout de
suite. Arrêtez ce podcast tout de suite et revenir éventuellement nous voir quand vous l'aurez vu, pour voir si vous êtes du même avis que nous. Moi, en tout cas. Mais le truc, c'est que moi, mon gros problème, c'était cette espèce d'entourloupe. Vous parlez de la scène d'ouverture du film, qui est donc censée être présentée, et c'est tout le trip, en fait, comme un flashback. Donc, à partir de là, t'as le personnage de, comment elle s'appelle, Amy Adams,
ouais,
qui est censé avoir un poids sur les épaules dû à cette scène, puisqu'elle a perdu son enfant, dont on comprend rapidement qu'en fait, ce poids n'existe pas. Un, parce qu'on lui a demandé de jouer ça de manière complètement neutre, et pour cause, puisqu'en fait, ce n'est pas un flashback, c'est un flash-forward. C'est une scène en fait qui n'est pas encore arrivée dans sa vie au moment où on l'attrape au début, au moment où on va chez elle dans son appartement IKEA, enfin dans sa maison IKEA comme tu dis Rafik, et
Instagram
voilà. Et tout le problème en fait que j'ai, c'est cette espèce de d'entourloupe qui à mon avis fait partie des choses que le public apprécie vraiment, c'est-à-dire de cette fait
clairement,
entre guillemets, blousée par on m'a vendu un flashback, en fait c'est un flash forward et donc en fait tout s'explique, sauf que moi c'est précisément à ce moment là où plus rien ne s'explique dans le film, puisque d'un seul coup je me dis mais en fait ça parle de quoi exactement ce film, ça parle de et alors je suis désolé encore une fois, je précise, je spoil tout, donc comme ça c'est clair, ça parle donc d'extraterrestres qui viennent sur Terre parce qu'ils ont besoin de la race humaine dans 3000 ans, donc ils viennent foutre la merde entre toutes les nations en fait qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils vont chercher une nana qui est susceptible de les comprendre, ils lui donnent la clé pour défaire la merde qu'ils sont devenus foutre pour une raison dont on ignore, puisqu'apparemment en fait on verra ça dans 3000 ans. Et donc du coup au milieu de tout ça, on est censé donc un être touché par ce personnage qui n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, ce qu'on nous prétend qu'elle a vécu. Et deux, en fait, on est censé se démerder avec la raison pour laquelle les extraterrestres sont venus sur Terre, sur une base de, bah voilà, la clé, c'est, je te dis ce que, enfin, par exemple, en l'occurrence, c'est les Chinois, en fait, qui, il me semble, c'est le gouvernement chinois, si je dis plus de bêtises, parce que moi, le film est un peu vieux aussi dans ma tête, je l'ai vu en projection de presse. C'est le gouvernement chinois qui a des gros doutes sur la volonté pacifique
des extraterrestres.
Ah bah. Et donc, en gros, les extraterrestres qui apprennent à discuter avec elle, avec le personnage d'Eddie Adams, qui est une interprète, en l'occurrence, une
linguiste.
Une linguiste, voilà. Lui disent, bah voilà, on va te dire ce que sa femme a dit sur son lit de mort, et tu vas lui répéter, et ça va sauver l'humanité. Et là, tu te dis, vous vous foutez de ma gueule. Genre vraiment, c'est-à-dire que moi, le problème que j'ai, c'est que voilà, je sors de là. Le buzz autour du film, le hype autour du film ne m'étonne pas plus que ça, parce qu'encore une fois, je pense que cette espèce d'entourloupe, scénaristique, est à mon avis au milieu de ça et le côté un peu, neutre en fait, vraiment, parce que
vraiment, ça, voilà, vraiment pour le neutre,
céphalogramme plat,
hyper facile à appréhender. Encore une fois, voilà, j'insiste, c'est une pub pour yaourt. Ce qui est marrant, c'est qui dépasse.
C'est un truc de designer, quoi.
Comment ?
C'est un truc de designer, plus qu'un.
J'ai compris, de Alzheimer, et j'allais octer en disant oui, mais tout à fait, David, tu as trouvé exactement ce que je cherchais.
De Alzheimer aussi.
Non, mais
ce qui est marrant, c'est que par exemple, le score là que je vois, justement, je regardais où était sortie la musique, et alors, enfin, ça m'étonne pas, mais le truc est pas sorti ni chez Varese, ni chez Milan, ni chez un éditeur qu'on connaît bien. C'est sorti chez Dutch Gramophone. Ce qui veut dire à quel point c'est, enfin, la hype est là aussi, si tu veux. C'est un truc d'élite.
C'est pas élitiste. Non, c'est un film qui est facile à appréhender pour un public. Alors effectivement plutôt citadin, qui refuse que les choses dépassent. C'est l'incarnation de la bourgeoisie. J'ai pas parlé de compte Instagram par hasard. Hein. C'est comptes d'américaines ultra pété de thunes, qui aiment bien mettre en scène leur propre ameublement. Le film, pour moi, il est un peu à cette image. Il faut que rien dépasse. Tout ce qui est vivant doit, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. Genre, les personnages sont absolument pas travaillés. C'est un cataclysme. Il y a rien qui défie les attentes du public. Et en plus de ça, je parlais tout à l'heure, donc, de Spielberg et David Fincher, excusez du peu, par rapport à des gars qui se sont frottés à ce genre-là. Il y a aussi Zemeckis qui s'y est frotté avec le film Contact. Le principe des films de contact, ce qu'ils ont de fascinant, c'est que ils te parlent de langage et de comment dépasser les limites du langage humain. C'est ça qui est au cœur des films de contact. et on confie ça à quelqu'un qui n'a pas la moindre maîtrise du langage cinématographique. La raison pour laquelle Spielberg, Fincher et Zemeckis s'intéressent à ces sujets-là, c'est que ce sont des cinéastes et que eux-mêmes utilisent un langage qui est au-delà du langage parlé et du langage écrit.
Oui,
et donc du coup, ils transfèrent ça dans leur mise en scène, cette idée de il y a moyen de dépasser ça, mais tu files pas ça au réalisateur de L'Homme de Picardie, tu vois. Et je veux dire, on est vraiment pour moi on est à ce niveau.
Sans aller, je vois ce que tu veux dire, mais sans aller jusque là, le truc c'est que moi
je n'aime pas le ras-moquette. Hein. Je suis étonné que vous ayez été si gentil avec Denis Villeneuve quand vous me disiez que c'était de la merde. J'imaginais pas à quel point ça en était.
Non, mais le truc c'est que ce que je veux dire en fait, c'est pour être plus spécifique, c'est sur le langage utilisé dans le film en termes de cinématographique. T'as un emploi hyper poussé de la langue focale. La volonté en fait de mettre énormément de gros plans et d'arrière-plans en fait qui sont nets et de gros plans flous. Donc du coup en fait t'as un jeu sur tous ces terrains là qui fait qu'à un moment donné la volonté du film c'est d'être éthéré. Ça, pour moi c'est retranscrit quoi. Le problème c'est qu'effectivement à partir du moment où tu veux utiliser une certaine émotion dans le langage cinématographique,
c'est un peu contradictoire.
Ouais, et puis tu t'essayes de faire passer ça. Enfin, lui, il essaye de faire passer ça par une espèce de musique doucerette. Il essaye de faire passer ça par voilà. Et donc du coup, tout ça, c'est pour moi, c'est tout est au centre en fait de ce flashback, flash forward. Et là, on parle du grand public en fait qui apprécie ce film. Mais bon, voilà, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est certains fans de SF en fait où j'ai l'impression qu'ils ont jamais vu. Par exemple, pour moi, cette entourloupe là. Et elle fonctionne.
J'en connais qui sont complètement bluffés par ce film.
Oui, enfin moi,
des fans de SF de qualité.
Je
ne les citerai pas, mais des gens qui ont de la connaissance en la matière.
Excuse-moi, mais à un moment donné, c'est pas plus ingénieux qu'une seconde d'un épisode de Rick et Morty. Je veux dire, tu prends Rick et Morty, ça part trois fois plus loin dans les paradoxes temporels. Et l'autre truc,
ça a beaucoup plus de couilles, quoi.
Et l'autre truc, c'est que
ça te challenge.
Il y a quelques films. Je vais spoiler ce film, mais j'ose espérer que les auditeurs de Capture Mag ont vu ce film, puisqu'il y a quand même déjà une vingtaine d'années. T'as ce film qui fonctionne sur le même principe, qui pour le coup fonctionne émotionnellement, qui est l'Armée des Douze Singes. C'est la même chose. T'as le personnage de Bruce Willis qui a une vision, un rêve prémonitoire, un truc qui revient à chaque fois, dont on pense que c'est un flashback dans sa tête, en fait, que c'est lui enfant qui voit une scène très spécifique, qui se trouve être paradoxe temporel, sa propre mort en fait. Et donc c'est lui enfant qui voit sa propre mort parce qu'il il voyage dans le temps. C'est dans la jetée, dans la jetée de Chris Marker dans les années 60, quoi. Qui est une borne de la SF française, on ne dira jamais assez.
Ou de la SF internationale.
SF internationale, mais bon, c'est un film français en l'occurrence. Voilà, et donc les fans de SF qui se font entourlouper par cette, par cette petite astuce narrative, ça me fait un peu halluciner que ou alors soit ils ont pas, enfin je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça et voilà, donc ou alors ça parle à tous les amateurs de la nouvelle vague.
La jetée est en ligne sur Vimeo, vous pouvez le voir gratuitement, c'est un film d'une trentaine de minutes,
c'est formidable quoi.
Ou alors les pubs pour produits diététiques des années 90 ont eu plus d'impact que je ne l'imaginais sur la course.
Mais l'idée de ton parce que c'est un peu ton coup de
ah bah moi maintenant j'adore la médication.
Non, c'est un peu ton coup de gueule à toi à la base, David. Il faut quand même préciser, on a donc cette habitude à la base de gueuler sur certains films qui font la hype pour pas grand chose, mais c'est vrai que pour le coup c'est toi qui est venu nous proposer cette émission parce que tu as vu Premier Contact récemment. Donc l'idée c'est pas uniquement de
j'étais pas dans le coup de gueule, j'étais un peu dans le coup de déprime, on va dire, plus que dans le coup de gueule, parce que ça, c'est pareil. Enfin, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas abordé là, mais qu'on peut aborder en deux minutes, c'est le fait que Denis Villeneuve, c'est le réalisateur de la suite de Blade Runner,
Les mecs, ils sont dit, on a le film le moins production designé, le moins photographié du monde, on va lui filer Blade Runner, au mec.
Non, mais c'est surtout. Je crois que tous les fans de SF ou tous les fans de films geeks de manière générale, ils flippent à mort que Blade Runner soit un ratage, et on peut le dire aujourd'hui. Moi, je mets mes couilles sur la table.
Ça va être une
catastrophe.
Écoute, le truc, c'est qu'en tout cas, les fans de SF et les fans qui attendent la suite de Blade Runner et qui attendent la suite de Blade Runner en serrant les fesses, apparemment, sont convaincus par la bande-annonce. Moi, personnellement, quand je vois cette bande-annonce-là, c'est une note d'intention. Effectivement, ce que dit Rafik, aller chercher le film le plus production designé au monde, le film de SF le plus production designé au monde, avec un univers qui a en gros, si tu veux, donné le là pour tout,
pour tout le monde.
Non, mais pour tout le monde, et que t'as un paquet de tâcherons qui essayent de le refaire à chacun de leurs films noirs. Comment dire
Le voir. David Fincher est mort. Alors ils se sont dit, on n'a plus personne. On va prendre.
Non mais voilà, le voir aller chercher Ryan Gosling et le foutre dans une espèce de purée de pouvoir rouge en guise de note d'intention.
Avec une
grosse
tête.
Donc moi j'attends. Écoute, je serai le premier à aller voir Blade Runner 2049, ne serait-ce que par masochisme. Parce que, à la base, et je dis ça parce qu'à la base, c'est même pas une question de Denis Villeneuve, même si un très grand réalisateur, un mec que j'admire profondément, se lançait là-dedans, je me dirais, oh putain. Parce que t'as encore un truc, c'est que ça fait 35 ans que ce film-là existe. On a eu le temps de se l'approprier, il y a eu je sais pas combien de versions en plus du film, on a chacun plus ou moins notre version préférée du truc, donc c'est quand même un film très spécifique. C'est, je veux dire, nous on a un gros problème avec le Ridley Scott de ces 30 dernières années, on va dire, tu vois. Pourtant, malgré tout ça, c'est un film qui ne bouge pas, Blade Runner, c'est un film qui est vraiment une borne de la SF, quoi. Donc, je veux dire, même si James Cameron se mettait à faire la suite de Blade Runner. Moi, j'ai pas vécu l'époque où il a fait la suite d'Alien, tu vois. Donc le truc, c'est que, enfin, j'ai pas vu Gamin, je l'ai pas vu en salle. À la limite, je crois que j'ai vu Alien avant de voir Alien. Non, j'ai vu Alien d'abord. Mais le truc, c'est que j'avais pas ce gap, ce temps. Voilà,
c'était une trahison, mais une trahison
voilà,
intelligente.
Voilà. Je me serais posé la même question à l'époque. Je me serais dit, merde, ce mec-là, il va s'attaquer. Même si j'aurais adoré Terminator, il va s'attaquer à la suite d'Alien. Qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Bah, même si c'était lui qui faisait la suite de Blade Runner, je lui dirais, oula. Bon courage, donc Denis Villeneuve, j'avoue que je lui accorde pas beaucoup de crédit sur ce point-là, mais on verra bien, écoute.
On en reparlera sûrement dans quelques mois.
Alors, dans les recommandations, donc, si vous avez aimé Premier Contact, vous avez des épisodes de L'Homme de Picardie qui sont disponibles en intégralité sur Dailymotion ou YouTube, je sais plus.
Oui, bah écoute.
Non, mais je sens. Merci David, parce que je sens qu'avec cet épisode, on va encore prendre plein la gueule.
Ouais, entre les spoils.
Voilà, on va encore passer pour des petits médisants.
Les rabat-joie.
Voilà. Non, mais des vieux cons. Donc voilà. Donc merci David.
J'assume.
De haut de tes 22 ans, tu nous as bien.
Côté vieux con. Bon bah merci les amis d'en avoir parlé, ça m'a fait du bien.
Ouais,
cette petite discussion voilà, m'a fait du bien.
Ça fera 50 euros. Voilà.
Tu reviens nous voir pour Blade Runner, il y a pas de problème.
Hein.
Et puis si tu découvres Prisoner, ce Sicario, Ennemi, tu nous dis hein, tu vois.
Bon, de toute façon, on va se revoir sûrement très très vite pour des captures mag hebdo, pour des captures mag tout court.
Voilà.
Et puis on espère le retour aussi de Julien et de Arnaud qui ne sont pas là ce soir, vous l'aviez remarqué.
Julien qui a beaucoup aimé Premier Contact. Non, je rigole.
Pauvre.
Non, je rigole, c'est pas drôle.
Il a adoré écouter cette
ça. Il s'est réveillé avec son thermomètre dans la bouche là.
Quoi? Bon, on vous embrasse tous.
Allez
nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Allez nous écouter sur CaptureMic.net, nous lire et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. J'en peux plus. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.
Et surtout, don't believe the hype.
Exactement, don't believe the hype. Salut, Rafik.
Salut tout le monde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.